le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui le pasteur Jean-Paul Barcon, ancien secrétaire général de l'UFA, l'Union des Fédérations Adventistes. Le pasteur Jean-Paul Barcon s'intéresse à l'image de Dieu que nous rapporte Jésus-Christ dans l'Évangile. Nous sommes facilement habitués dans notre société postmoderne à percevoir les métamorphoses d'un Dieu présenté par les fantasmes des hommes.
Bonjour à vous. Ce matin, notre attention est portée sur un aspect du vécu du Christ, comme nous le rapporte l'Évangile de Jean, au chapitre 11 et à partir du verset 28. Marthe appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret « Le maître est arrivé, il t'appelle ». Dès qu'elle entendit cela, elle se leva pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus pleura. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Le verset 35 de ce chapitre 11 de l'Évangile de Jean est le verset le plus court de la Bible, Ancien et Nouveau Testament réunis. Jésus pleura. La Nouvelle Bible Second ose même écrire « Jésus fondit en larmes » pour souligner l'intensité de son émotion. Lazare de Béthanie était malade et le Christ en avait été averti. Marthe et Marie l'ont sollicité. Sa présence était indispensable pour la guérison. Mais Jésus s'était fait attendre. Ce n'est qu'au bout de 2 jours qu'il arrive à Béthanie. Seulement voilà, Lazare est mort. Il découvre alors une scène naturelle lorsque les gens sont endeuillés, la tristesse, les pleurs, le désarroi d'une famille et des proches. Le Fils de l'homme est attristé non seulement par la perte de son ami Lazare, mais surtout par l'absence d'espérance dans le cœur de Marie et l'angoisse de cette famille endeuillée. Marie lui fait le même reproche que sa sœur précédemment. « Si tu avais été ici lorsque Lazare était malade, il ne serait pas mort. » Avec l'une, Marthe, Jésus parle de la résurrection et de la vie. Avec l'autre, Marie, Jésus n'enseigne pas. Il pleure avec celle qui pleure, avec ceux qui pleurent. Il faut attendre qu'il soit au tombeau pour faire déplacer la pierre et ressusciter Lazare. C'est l'enseignement qu'il veut apporter. Il veut montrer qu'il est véritablement la résurrection et la vie. Il est ainsi fils de l'homme, il pleure dans son humanité, il se révèle fils de Dieu en ressuscitant Lazare. L'auteur de ce récit, l'apôtre Jean, reprend un détail important qui par deux fois traduit le trouble de Jésus-Christ. Une première fois en présence de Marie et de la famille endeuillée. Lorsqu'il les vit se lamenter, au verset 33, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Une seconde fois, suite à la réflexion désobligeante des Juifs, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que Lazare ne meure pas? Ce trouble de Jésus-Christ relève à la fois de son indignation et de sa tristesse. Nous retrouvons le même sens de son trouble dans un autre épisode, quelques chapitres plus loin, au chapitre 13 de Jean, où Jésus affirme que l'un des disciples trahira. Il semble que le trouble précède souvent une révélation importante, quelque chose qui doit être dit. Le trouble nous montre l'attention que Jésus-Christ porte à la souffrance humaine. Il pleure avec ceux qui pleurent, mais sa tristesse ne traduit pas un désespoir. Elle révèle son empathie à l'égard de l'homme. Comment pourrait-il en être autrement de la part de notre Créateur ? Mais il y a d'autres passages bibliques où le Christ traduit sa compassion et trahit son émotion. L'évangile de Luc, à partir du verset 41 du chapitre 19, nous apprend qu'à l'approche de Jérusalem, en voyant l'étendue de cette ville, il pleura en disant « Si toi aussi, tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. » On ne peut pas parler de la ville de Jérusalem sans tenter une approche exégétique. Citée 660 fois dans les récits de l'Ancien Testament et 146 fois sous la plume des auteurs du Nouveau Testament, Jérusalem est la ville de la présence de Dieu. Elle est surtout le lieu du temple que David et Salomon dédient à Dieu. Yerushalayim, le Yéhou de Jérusalem, et le rappel de la colline de Morija, avec l'intervention surnaturelle de l'ange arrêtant l'épée meurtrière d'Abraham. Mais il y a encore plus, puisque Morija est aussi le lieu où, selon le récit biblique des Chroniques, Dieu avait arrêté l'épée de l'ange châtiant les troupes de David. Le Salem de Jérusalem évoque le personnage de Melchisédek. Dans l'étymologie du nom de Jérusalem se trouve associé le sacrificateur et la victime avec cette intervention salvatrice de Dieu qui procure justice et paix. Jésus pleure sur cette ville, cité de paix inscrite dans son nom, mais pas toujours dans le cœur de ses résidents. Jésus précise ici le devenir de cette ville en faisant même une prophétie. Si nous poursuivons notre lecture de Luc 19, dès le verset 43, « Des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. » 40 années plus tard, les Juifs se révoltent contre Rome, et Titus est chargé de mater l'insurrection. Les soldats romains attaquent Jérusalem et font une brèche dans la muraille nord, mais ils ne parviennent pas à prendre la ville. Finalement, ils l'assiègent et en l'an 70, ils y pénètrent pour l'incendier. L'attaque de Titus provoque la mort de 600 000 juifs. La région devient alors une province impériale. Aucune autre ville dans le monde ne peut être comparée à celle de Jérusalem. 40 fois assiégée, incendiée, ruinée, deux fois rasée. On n'a sans doute pas fini de mourir pour Jérusalem. La paix du monde, son équilibre, se joue en partie dans cette ville. Jésus pleure sur elle. En réalité, il pleure pour des personnes. Il pleura sur Lazare, mais aussi pour la détresse de cette famille face à la perte d'un être cher. Il pleura sur Jérusalem pour des personnes qui ne donneraient pas à cette ville sa vocation de paix. Le troisième texte biblique, nous parlant des pleurs de Jésus-Christ, est celui de l'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 5. En parlant du ministère du Christ en Terre Sainte, le texte nous dit « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est une allusion à l'épisode de Gethsémané que nous rapportent les évangiles. Les évangiles synoptiques ont noté cet épisode où Jésus vint dans ce lieu avec trois de ses disciples. Il s'écarte pour prier et les textes mentionnent l'angoisse et la tristesse qui se saisissent de lui au point de demander à son père d'éloigner cette coupe. Mais Jésus offre le don de sa vie et il montre sa soumission, sa fidélité à la volonté de son père. On pourrait longuement s'interroger sur les larmes que le Christ a versées sur Lazare, sur Jérusalem, et maintenant dans ses prières à Dieu avant le déroulement de la Passion. Quelle en est sa signification? Que veut nous apprendre cette attitude de Jésus-Christ? En réalité, par son incarnation, Jésus-Christ a embrassé notre nature humaine et il a vécu toutes les émotions qui y sont inhérentes. Mais au-delà de cette proximité quotidienne du Christ dans son ministère auprès des hommes, il veut nous révéler le véritable visage de Dieu. Il le fait par son enseignement, mais plus encore par sa vie, par sa manière d'être et de se comporter dans ses relations humaines. Jésus a puisé l'image de Dieu dans la tradition de son Père. Le Dieu dont il parle et au nom duquel il prie et agit n'est autre que celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fidèle à la tradition d'Israël, Jésus voit Dieu comme un être avec lequel on entre en relation, un Dieu qui parle, qui écoute et agit efficacement dans l'histoire des hommes. On peut donc le prier et Jésus insiste beaucoup sur cette relation. Jésus insiste davantage sur l'action présente et future de Dieu et de son règne que sur les événements passés. Il évoque celui qui seul mérite d'être appelé bon. Le regard du Dieu miséricordieux qui fait lever son soleil et tomber la pluie sur les hommes et sur les méchants est aussi le regard de Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, nous découvrons le véritable Dieu bien différent de celui des philosophes, comme l'affirmait Pascal. Il n'a rien de surprenant pour Jésus d'affirmer à Thomas « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et pour bien accentuer son unité avec Dieu, il précise à son disciple « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Semblable à l'attente remplie d'espérance du Père du Fils prodigue de la parabole, qui voit revenir son fils, Dieu est aussi ému de compassion, au point de manifester sa joie dans les retrouvailles. Lorsqu'une brebis perdue retrouve son chemin, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour des justes qui pensent n'avoir pas besoin de repentance. Jésus clarifie souvent les sentiments de Dieu parce qu'il sait que la nature des hommes est de transformer le caractère de Dieu. Nous projetons sur Dieu nos propres sentiments au point de le défigurer. Il y a plusieurs années, Régis Debray a publié un livre intitulé « Dieu, un itinéraire ». Et plus récemment, un célèbre hebdomadaire a sorti un hors-série « Comment est né Dieu ?» en tentant de comprendre la naissance de Dieu dans les différentes cultures. Mais Dieu est antérieur aux civilisations et aux cultures. Les hommes peuvent avoir des idées sur la transcendance, empruntées même à la mythologie, ses concepts, et les associer au courant spiritualiste contemporain, consciemment ou non, ils se font une divinité à leur image. Voltaire ne me démentira pas. C'est avec raison qu'il affirma « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu ». On a souvent tenté de s'approprier Dieu au point de le détourner de sa nature et de sa vocation initiale. C'est oublier qu'une grande distance sépare l'homme pécheur de Dieu. Aussi, Jésus-Christ met constamment en lumière le caractère si particulier du divin. Et cette démarche lui sera reprochée. À Jérusalem, lors de la fête des Lumières, Hanouka, Jésus, dans le parvis du temple, découvre les réactions de certains auditeurs qui souhaitent le lapider. Il leur pose alors cette question « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Et les Juifs de lui répondre « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Dieu s'intéresse à l'homme. C'est toute cette attention que Jésus-Christ porte aux hommes, au point de pleurer sur notre condition humaine. L'empathie du Christ est celle de Dieu. Le caractère du Christ est aussi celui de Dieu. L'empathie est en relation profonde avec la compassion. L'empathie de Jésus ne le pousse pas à choisir qui aimer. Il aime toute l'humanité. Et son invitation est dirigée vers tous les hommes lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés ». Lorsque son empathie fait du bien à une personne, c'est au nom de son amour pour tous qui la destine. C'est l'une des raisons pour lesquelles les lecteurs bibliques de tous les temps sont concernés par la compréhension des textes. Dans l'Église, chacun de nous a un niveau spirituel différent. Il n'y a pas d'uniformité sur ce plan-là. Nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres, car aucun de nous ne représente un modèle spécifique, un étalon. Seul Jésus-Christ reste l'exemple parfait, l'étalon pour une humanité invitée à s'approcher de lui, dimension verticale, et à se rapprocher les uns des autres, dimension horizontale. L'intersection entre les deux reste bien la croix. Jésus s'offre sans condition à ceux qui veulent l'accepter. Si nous sommes chrétiens, c'est que nous l'avons reçu, ou que nous sommes en train d'y parvenir, puisque la vie chrétienne est une vie progressive, destinée à s'amplifier. Le christianisme auquel nous sommes attachés repose sur la personne de Jésus-Christ qui est le véritable révélateur de Dieu, l'image du Dieu invisible selon la formule de saint Paul à l'église des Colossiens. Pourtant, après bien des siècles d'histoire, dans notre société judéo-chrétienne, il ne s'agit pas de ramener Dieu à notre niveau en le maintenant captif dans nos églises et rivé à nos formules de pensée. En tant que chrétien, quel Dieu présentons-nous? On se fait souvent une image de Dieu à travers ceux qui en parlent. Et lorsqu'on veut s'en écarter, on prend prétexte sur le mauvais vécu de certains. Lorsque la croyance devient exclusion de l'autre, ou lorsqu'elle métamorphose Dieu en lui faisant porter des armes et en semant la terreur au nom d'une idéologie, ce n'est plus Dieu que l'on présente, mais le mal que l'on inocule. On ne peut donc pas suivre les dérives des hommes dans l'espoir de parvenir au paradis perdu. La loyauté et la sincérité dans la foi ne dépendent pas de notre appartenance ecclésiale et religieuse, mais de notre relation intime et personnelle avec la transcendance. Le salut ne dépend pas de notre savoir, même si la connaissance reste une aide importante. Notre dextérité dans l'interprétation des prophéties les plus complexes de la Bible est souvent une aide précieuse, mais notre salut dépend uniquement et essentiellement de Jésus-Christ, Rédempteur, du Christ ressuscité. Il s'agit avant tout de comprendre Dieu à travers Jésus-Christ, de mesurer la pensée des apôtres dans leurs lettres adressées aux communautés naissantes du Nouveau Testament. Si nous voulons porter l'empreinte de l'Évangile en vivant de ses valeurs sans les déformer ou sans se laisser déformer, il importe alors d'intensifier nos relations avec Dieu dans la plus grande fidélité à l'Évangile et au conseil des apôtres du Nouveau Testament. C'est le rôle de l'Église, au-delà de ses particularités et de son histoire, d'être en mesure d'expliquer, de présenter, d'aider les croyants à porter dans leur cœur et dans leur caractère l'amour de Jésus-Christ et de Dieu. Faire découvrir à notre société postmoderne la véritable image de Dieu et de notre responsabilité de témoin. Ayons toujours en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous conseille l'apôtre Paul. Nous pouvons relever la tête avec confiance, parce que le Dieu de Jésus-Christ ne contraint personne à le suivre et personne à le comprendre. Les larmes du Christ nous révèlent l'intérêt essentiel et l'amour de celui qui a tant aimé le monde au point de se donner pour que nous ayons la vie éternelle. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Jésus pleura. C'était le thème de la méditation du pasteur Jean-Paul Barcon, ancien secrétaire général de l'UFA, l'Union des Fédérations Adventistes. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Rafik Zénine, à la prise de son Alain Joubert. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération Protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation? Je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au 47 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Restez sur France Culture, à venir Culture Protestante, le rendez-vous mensuel des amitiés huguenotes internationales. Aujourd'hui, Christiane Guttinger nous propose 3 étapes huguenotes au sud de l'Angleterre, un voyage de Londres à Canterbury en passant par la ville de Rochester. Je vous retrouve à 16h pour les conférences du carême protestant. Le pasteur Bruno Godelet évoque pour cette année 6 figures narratives de l'Évangile. Aujourd'hui, le témoignage de Paul. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.